programme va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute du programme en français de Radio Prague qui vous est présenté aujourd'hui par Alexis Rosenzweig. Cette émission sera aujourd'hui très littéraire dans Culture sans frontières. Anna Kubishta reçoit aujourd'hui l'écrivaine Anne de la Flotte Medevi. Dans les rencontres littéraires, Václav Richter vous présentera la confession d'une mère adoptive, Teresa Bojkova, qui a élevé deux garçons roms. À l'affiche de cette émission, au programme de cette émission, il y a également le tchèque du bout de la langue, préparé par Guillaume Narguet. En janvier 2009, nous avions rencontré l'écrivaine Anne de la Flotte Medevi, installée à Prague depuis 17 ans et qui venait de sortir son premier roman, La relieuse du guet, paru aux éditions Gaïa. En septembre 2010, elle a publié son deuxième opus, intitulé Fugue, chez le même éditeur. Anna Kubishta l'avait rencontrée à cette occasion pour évoquer l'histoire et le processus d'écriture de ce roman. Nous vous proposons de réécouter cet entretien qui date du 27 novembre 2010.
Culture sans frontières.
C'est une réflexion sur la musique. Enfin, au départ, c'est comme ça que je le voulais. Et ça passe par le biais de l'histoire de cette femme qui s'appelle Clotilde et qui va perdre la voix. Un jour de rentrée scolaire, un jour où elle va déposer ses quatre enfants, dont les deux petits, dont c'est la première rentrée scolaire. Le temps du petit âge, de l'âge tendre de sa progéniture est terminé. Donc c'est une étape évidemment nouvelle dont elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Elle sait que c'est là, mais elle ne sait pas vraiment quoi en faire. On imagine que sa deuxième fille Madeleine va être une petite provocatrice de destin, c'est-à-dire qu'elle va fuguer et sa mère va devoir partir à sa recherche. Dans cette quête de l'enfant, elle va beaucoup appeler cet enfant et l'angoisse aidant, elle va perdre la voix. Elle va retrouver l'enfant et puis se rendre compte que sa voix qui va bien, mais sa voix a disparu entre-temps. Et le livre, c'est l'histoire de la reconquête de sa voix.
Un biais paradoxal quand même.
Oui, qui va passer par... Donc c'est une musicienne, une excellente musicienne amateur, mais qui elle aurait très bien pu franchir le cap et devenir professionnelle, puisqu'elle a fait toutes les études pour ça, et puis la vie l'a emmenée autre part. Mais la musique est toujours restée un langage très familier, quotidien pour elle, mais amateur, de pratiquer de façon amateur. Elle va réussir au bout d'un certain temps de rééducation à refaire vibrer ses cordes vocales, mais elle va être atteinte d'une on va découvrir qu'elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle dysphonie spasmodique, et donc son élocution est très très imparfaite et complètement empêchée puisqu'elle doit réguler sa respiration.
Et puis c'est aussi une voix qui finalement n'a plus vraiment d'âme. C'est un peu ce qu'on découvre au fil du temps quand on voit comment elle réapprend à parler. Finalement, tu dis que cette voix n'a pas d'âme en fait d'une certaine façon.
Non, parce que la voix est tellement, pour la produire de façon, je dirais, mécanique, on doit être tellement concentré sur le processus d'élocution qu'en fait on n'a pas le temps d'investir la voix d'émotion et puis on doit se reprendre après quelques syllabes très courtes émises à grand renfort de respiration. Il faut reprendre son souffle et donc il n'y a pas de conversation possible. Et si on perd l'usage instinctif de la voix, pour retrouver le chemin et refaire fonctionner les muscles du larynx, le cerveau, l'ouïe, le diaphragme, etc. C'est très 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 compliqué, c'est un mécanisme très très complexe. Il faut le retrouver de façon consciente. Voilà, et ça m'intéressait, que cette parole soit si évidente. Oui, à part que le jour où on la perd, c'est très très difficile de la faire réémerger.
Tu avais lu des articles, par exemple, sur des cas similaires, justement, de personnes qui ont perdu la voix suite à un choc psychologique, par exemple. C'est quelque chose qui peut arriver ?
Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai fait relire Fugue par un orthophoniste, donc ce que je dis est tout à fait crédible, et cette maladie, dysphonie spasmodique, elle existe. Par contre, ce qui est peut-être un peu plus difficile à avaler d'un point de vue professionnel, mais encore une fois, ça passe, parce qu'on ne sait pas pourquoi la dysphonie spasmodique intervient chez un individu. Souvent, on ne comprend pas pourquoi elle arrive. Alors, la faculté que je prête à Clotilde si elle ne peut pas parler de façon cohérente ou plutôt satisfaisante, qu'elle puisse chanter divinement, ça, je l'emprunte plutôt au bégaiement. On sait que les gens qui bégaient vont pouvoir chanter de façon fluide. Selon l'orthophoniste, ça peut arriver, puisque de toute façon, cette maladie de dysphonie est mal connue.
Ce roman s'appelle Fugue, donc évidemment tout tourne autour du jeu de mots finalement, puisque c'est le début de l'intrigue, hein, c'est sa fille Madeleine, qui est un peu sauvage en effet, qui fugue, mais également la fugue, donc c'est un terme musical. Et puis, alors, troisième fugue évidemment qu'on peut voir, c'est finalement la fuite d'une certaine manière de Clotilde, donc de l'héroïne qui a perdu sa voix, de la réalité dans laquelle elle vivait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'une bonne mère, d'une bonne épouse, qui finalement a laissé tomber c'est en effet la musique.
Elle fait
l'école buissonnière aussi, mais elle fait l'école buissonnière de sa vie passée. Alors simplement pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que tu pourrais rappeler exactement ce que c'est que la fugue en musique et comment est-ce que tu l'as articulée justement dans ton roman, et donc évidemment me parler de l'importance de la musique justement dans ce roman, puisqu'en effet c'est un portrait de femme, mais aussi un roman sur la musique.
Alors la fugue, c'est d'abord la fugue de Madeleine, effectivement, puis après il y a évidemment la référence à ce mode musical qui est la fugue. La fugue, c'est un thème musical qui est décliné tout au long d'une pièce, avec des passages qui se répondent. Voilà, le second thème étant une réponse au premier, etc. Donc il y a toujours cette idée d'écoute, d'exigence musicale. Il n'y a pas de musique s'il n'y a pas d'écoute. C'est pas la peine qu'il y ait une émission musicale s'il n'y a personne pour recevoir le message à l'autre bout. Et mon histoire, elle est aussi là-dessus, sur l'écoute. Et dans le mode musical même de la fugue, on trouve dans sa structure même ce petit jeu d'écho et de répons.
Et finalement, on peut dire que... Alors là, ce serait pour paraphraser finalement la dernière pièce de Bach, l'art de la fugue. Elle va y exceller finalement, Clotilde, dans cet art de la fugue, puisqu'elle va se faire en fait une toute autre vie. Et donc, ça, c'est le deuxième pendant de ce livre. Hein, c'est finalement, en effet, ce portrait de femme. Alors, en effet, il y avait déjà ce portrait de femme dans La relieuse du guet, qui est également une femme très radicale. Elle fait un choix radical, en tout cas. On en avait parlé l'an dernier, en janvier 2009. Elle fait un choix radical puisqu'elle quitte tout pour devenir relieuse, dans une carrière brillante. Et finalement, Clotilde fait ce genre de choix radical sans le vouloir, puisque c'est les conséquences de cette maladie. Mais ça l'arrange bien, finalement.
Je m'en rends compte maintenant des points communs peut-être entre Clotilde et Mathilde, d'abord des noms en Hilde, mais en fait je sais pas jusqu'où c'est voulu. Mathilde, je l'ai choisi vraiment sur la base étymologique du prénom, mais Clotilde, j'ai la silhouette en tête d'une femme que j'ai croisée à Prague il y a très longtemps, qui s'appelait Clotilde, qui était une jeune actrice française, une très belle femme, très fine, quelque chose d'un peu fragile, et en même temps de personnalité très forte. Et et comme j'aime décidément les prénoms en Hilde, je me suis pas fait suer, je l'ai gardé. Je me rends compte qu'elles sont toutes les deux, en fait, elles ont des points communs dans le sens où elles sont toutes les deux, alors tu disais radicales. Je sais pas si elles sont radicales. En tout cas, elles sont tenaces, mais c'est pas des violentes et des hystériques. C'est des calmes, des déterminées, mais doucement, sans aucune. Il me semble, enfin, en tout cas, je voudrais pas qu'elles soient violentes. Je crois pas qu'elles aient de la violence.
Non, elles le sont pas. Et puis ton écriture, de toutes les façons, empêche pour moi toute forme de violence d'une certaine façon, parce que c'est toujours une écriture très feutrée d'une certaine façon. Enfin, c'est ce que moi je ressens en ayant lu La relieuse du guet et Fugue.
Il y a une grande douceur chez ces femmes, un petit côté laborieux. un petit côté laborieux, beaucoup de douceur et de détermination, oui, quand même. Donc ça, elles ont ça en commun, certainement. Alors, je dis détermination parce que c'est joli. On pourrait dire qu'elles sont têtues. elles sont entêtées d'une certaine façon. Clotilde, elle s'entête, mais c'est parce qu'elle sait que, enfin, je sais pas employer des grands mots, mais oui, que sa vie en dépend, que toute la qualité de ce que sa vie sera dépend de ce moment-là, qui a été provoqué par sa fille, je rappelle, ce qui est très important symboliquement. Je ne sais pas comment tu l'as lu, mais je me rends compte que j'aimerais bien que les gens le lisent un peu comme on lit un conte et qu'on lui accorde une valeur de fable. parce que parfois je me dis oui, Clotilde est... elle est belle, elle a une belle voix, ses enfants sont beaux, ils sont pas malades, ils ont jamais le nez qui coule, Vincent est super beau. Alors moi oui, j'assume, il faut que j'assume, je le veux comme ça. Je le veux comme ça. D'abord, je voulais avoir la paix pour me concentrer sur le lien à la musique. Et donc, il fallait pas trop que j'empêtre la vie quotidienne comme ça. Mais je veux qu'il y ait cette espèce de sublimation, comme ça, et puis de valeur de compte.
Alors ça, c'est intéressant que tu me dises ça, parce que, alors, c'est peut-être mes projections personnelles, totalement, hein. Que ce soit pour la relieuse ou fugue, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose, dans un sens très positif, de médiéval dans tes romans. Alors, j'allais dire que c'est déjà par les prénoms Mathilde, Clotilde. Pour moi, c'est des reines. Hein, je pense à la reine Mathilde, mais Clotilde, il y a dû en avoir aussi des reines. Je pense aux personnages qui apparaissent dans Fugue. Il y a cette espèce de fou du village me fait penser à un Baptiste qui est un peu le fou du village. Moi, il me fait penser justement à cette espèce de fou de la cathédrale, voilà. Et puis, bon, évidemment, ton roman se passe en Bourgogne. L'autre se passait également en Dordogne. C'est des régions très historiques et très ancrées aussi dans le médiéval. Moi, je pense à la romande tout de suite. Et même si c'est pas décrit, même si on le voit pas forcément, en même temps, elle chante dans une église ou dans une abbaye, j'ai toujours l'impression que toute cette espèce d'atmosphère, qui est pour moi médiévisante, mais c'est peut-être pas du tout ce que t'as voulu mettre, est très présente. Je pense même à son amie Alice, qui est herboriste, enfin botaniste, mais finalement qui tient un magasin avec plein de plantes. C'est très étrange, en fait. Et le fait que tu parles de contes, ça correspond à cette image que moi, en tout cas, j'ai eue en tant que lectrice.
Ouais, je sais pas quoi faire encore de ça, je sais pas si j'arrive à le faire, mais je sais que c'est ce que j'aimerais faire. Moi, c'est ce que j'aime peut-être aussi dans la littérature. J'aime bien quand un roman m'emmène ailleurs, voilà, m'emmène un peu dans une autre dimension. Si je veux lire des choses très contemporaines, très précises, alors je lis des essais de sociologues ou des ouvrages historiques, ce que je fais très souvent parce que j'aime ça m'intéresse beaucoup. Mais quand on est... Moi, j'aime beaucoup Sylvie Germain. Alors, je sais pas du tout de copier. J'aimerais bien... Mais c'est ce qui m'intéresse. Et quand j'écris, moi, je suis partie dans un monde que je veux pas ramener ici, maintenant. Ça m'intéresse pas beaucoup. Et quand j'écris, moi, je suis bien s'il y a une part de conte, voilà, une espèce d'atmosphère comme ça, de conte, une distance.
Et juste pour terminer, alors, pareil que finalement pour La Relieuse du Guet, t'as une écriture très sensuelle, je trouve. En tout cas, tu donnes beaucoup d'importance au sens. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai en lisant. Moi, je pense évidemment pour La Relieuse du Guet au toucher, puisque je pense aux livres, aux couvertures, peut-être aussi l'odorat, hein, puisqu'il y a l'odeur du cuir. Et puis évidemment, pour Fugue, c'est Louis.
Si on veut avoir un esprit ouvert, curieux, on peut peut-être commencer par bien regarder, par bien écouter ses proches, les autres. Enfin, je pense que la curiosité intellectuelle, même la plus abstraite, elle commence peut-être déjà par ça, par regarder, observer et sentir son environnement proche, son milieu urbain ou voilà, ou autre, campagnard, je ne sais pas, mais les autres, c'est... Oui, commençons par nos sens. Commençons par regarder, toucher et entendre ce qui se passe à côté de nous. Mais ça participe, c'est le début d'une curiosité qui donne tout son sens à, je sais pas, à la vie, à une vie qu'on peut avoir envie de mener. Oui, éveillée, simplement.
L'écrivaine française Anne de la Flotte-Médévy. Je vous rappelle que son dernier roman, intitulé Fugue, est paru en septembre dernier aux éditions Gaïa. Vous pouvez évidemment retrouver cet entretien sur notre site internet au www.radio.cz. À bientôt, bon vent, ahoy!
Merci à Anna Kubishta pour ce magazine culturel consacré à l'écrivaine Anne de la Flotte-Médévy. Place maintenant au prof Guillaume Narguet qui se penche une fois tous les 15 jours sur les mystères et les pièges de la langue tchèque.
le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Enfilez votre maillot de bain sous votre manteau.
Pod kabát si vemte plavky.
Titré dans son édition de vendredi pour le dernier jour du mois de septembre, le quotidien gratuit Métro. Depuis plusieurs jours déjà, en République tchèque et plus généralement en Europe centrale, tandis que le matin, accompagné de brouillard plus ou moins épais, le thermomètre indique des températures parfois proches de 0 degré, l'après-midi, au plus fort de l'activité du soleil, le mercure grimpe jusqu'à plus de 25 degrés. À cela, une raison très simple. Nous sommes en plein dans ce que les Tchèques appellent le
« babí léto »,
une expression qui désigne une arrière-saison offrant beau temps et chaleur, une sorte d'été de l'automne qui correspond en français à l'été de la Saint-Martin. En français, il existe un proverbe selon lequel septembre se nomme le mai de l'automne. Les Tchèques, eux, semblent plutôt voir en septembre la fin de l'été et commencent donc à guetter l'arrivée des premières journées plus froides, plus grises, comme en témoigne le proverbe.
V září sice slunce ještě hodně svítí, ale kabát už připravený musíš mít.
À savoir, en septembre, le soleil brille certes encore beaucoup, mais ton manteau doit déjà être prêt. Mais fin septembre, début octobre aussi, les Tchèques profitent aussi régulièrement des dernières journées chaudes et ensoleillées de l'année, des dernières journées estivales, malgré l'automne déjà installé selon le calendrier. Il existe d'ailleurs un très beau proverbe pour mieux comprendre, selon lequel
« Září na léto jde stáří ».
Un proverbe qui traduit librement donne à peu près « septembre, l'été prend de l'âge ». Autrement dit, l'été vieillit, entre dans le troisième âge, il est sur le départ, vit ses derniers jours et l'automne approche à grands pas. Cette période particulière de l'année, cet été tardif, peut-être un peu triste pour certains, malgré le soleil encore très présent, les Tchèques l'appellent donc
« babí léto »,
ce qui, traduit littéralement, signifie quelque chose comme « l'été des bonnes femmes ».«
Babí »
est en effet un adjectif issu du nom
« baba »,
un mot sur lequel nous reviendrons dans une prochaine émission, mais dont, pour le moment, il convient de savoir qu'il désigne, de manière générale, quoique pas toujours de façon très élégante, les personnes de sexe féminin. Le dictionnaire étymologique de la langue tchèque émet donc l'hypothèse que cette expression
« babí léto »
pourrait provenir de l'allemand. En effet, certaines expressions allemandes indiquent que
« babí léto »
est à mettre en rapport avec la période du deuxième amour, plus tardive donc de certaines veuves, une explication qui n'est assurément pas dénuée de sens, mais qui n'est cependant pas la seule. Certains linguistes estiment en effet que l'appellation
« babí léto »
est plutôt à mettre en rapport avec les toiles d'araignées, nombreuses, il est vrai, en cette période de l'année, qui font penser aux cheveux gris des grands-mères. Or, en tchèque, le mot
« baba »
que nous avons évoqué précédemment désigne familièrement une
« babička »,
à savoir une grand-mère. D'ailleurs, les enfants tchèques appellent très souvent leur grand-mère
« babé »,
qui devient alors l'équivalent de « mamie » en français. Quoi qu'il en soit, cette idée de cheveux gris des grand-mères nous fait revenir, encore une fois, à cette notion d'été vieillissant, d'été sur le départ.
« Babí léto »
pourrait donc, en quelque sorte, être traduit comme « l'été des bonnes femmes, mais des bonnes femmes vieillissantes ». On pourrait simplement se demander pourquoi il s'agit de femmes vieillissantes et non pas d'hommes qui ne manquent, eux non plus, pas de cheveux gris. Et puisqu'il est question d'hommes, précisons encore que ce
« babí léto »
qui dure environ du 21 septembre, soit le premier jour de l'automne, au 2 octobre, est aussi parfois, quoique beaucoup plus rarement, désigné comme « l'été de la Saint-Venceslas ».
Léto svatého Václava.
La Saint-Venceslas, patron de la nation tchèque, tombant le 28 septembre, soit en plein.
Babí léto.
Et pour en rester à notre idée d'été de bonne femme vieillissante, mentionnons encore le magnifique proverbe suivant.
Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.
Soit les oies sauvages prennent leur envol, migrent, et c'est aussi la fin de l'été des bonnes femmes. Et c'est avec ces oies et cet été qui nous quitte que s'achève ce tchèque du bout de la langue très saisonnier. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro lorsque le
babí léto
sera cette fois sans doute derrière nous pour de bon. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil des bonnes femmes vieillissantes en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
C'était le tchèque du bout de la langue, préparé comme tous les 15 jours par Guillaume Narguet. Et dans une poignée de secondes, on passe à la littérature.
Rencontre littéraire.
Un couple élève trois enfants, deux fils adoptifs et un fils biologique. Les deux fils adoptifs sont roms, ce n'est pas facile, cela pose énormément de problèmes, mais c'est quand même possible jusqu'à l'adolescence des deux fils lorsque les choses se gâtent pour de bon. La mère adoptive doit se rendre à l'évidence, cette famille pour laquelle elle et son mari ont fait tant de sacrifices se désagrège. La période cruciale pendant laquelle la mère réalise que son rêve est impossible est le sujet principal du livre que son auteur, Teresa Boujkova, a intitulé « L'année du coq ». Václav Richter vous en dit plus.
Teresa Boujkova n'est pas un nouveau visage de la littérature tchèque. Déjà en 1990, elle a obtenu le prix Jiří Horten pour son recueil de trois récits intitulés « La course des Indiens ». La vie de Teresa Boujkova, née en 1957, a été difficile. Fille de l'écrivain dissident Pavel Kohout, elle signe juste après son baccalauréat la charte 77, appelle des intellectuels tchèques au respect des droits de l'homme et attire sur elle la colère du régime communiste. Pour gagner sa vie, elle est donc obligée de devenir successivement femme de ménage, facteur et concierge. Après la chute du communisme, elle peut publier ses textes. Elle écrit une série de feuilletons pour les journaux et aussi des scénarios de films. Déjà dans son scénario pour le film « Smradi, les morveux » qui sort en 2002, elle aborde le sujet douloureux qui l'a profondément marqué. Il raconte l'histoire d'une famille avec deux enfants roms adoptifs, histoire de sa propre famille. Tandis que dans le scénario elle évoque l'enfance de ses enfants adoptifs, dans le roman « L'année du coq », publié 6 ans plus tard, elle raconte leur adolescence qui a été peut-être la plus grande épreuve qu'elle ait subie.
Je prenais des notes pendant la pire année de ma vie. C'était un conseil de Monsieur Lim. C'est lui qui m'a conseillé de prendre des notes quand je ne pouvais rien faire d'autre. Mais dans ces notes, je ne faisais que m'apitoyer sur mon sort. C'est dans ces notes que je pleurais parce que je ne pouvais pas le faire ailleurs. Vous ne pouvez pas embarrasser tout le monde avec ça. Quand j'ai réalisé que personne ne pouvait m'aider, quand j'ai enfin eu le courage de résoudre le problème et de faire face à la désapprobation des gens, j'ai commencé à me ressaisir. Quand les garçons sont partis et ont pratiquement quitté notre vie, je me suis mise à retravailler ces notes et à en faire un roman. J'espère que ce livre n'a pas qu'un caractère documentaire. Ce n'est pas un documentaire. J'espère que j'ai réussi à en faire de la littérature, un livre fort qui parlera quand même quand son sujet et moi serons oubliés.
Impossible de raconter ici toutes les péripéties de ce roman qui évoque entre autres un choc entre deux mentalités opposées, un choc qui est d'autant plus douloureux qu'il se produit au sein d'une famille. Après être parvenus au seuil de la maturité, les deux fils roms, Dominique et Marianne, refusent de plus en plus souvent d'obéir aux règles de la vie familiale. À la vie commode mais disciplinée que leurs parents leur proposent, ils préfèrent la liberté de la rue, sans obligation et sans surveillance, et s'évadent de plus en plus souvent de la maison de leurs parents adoptifs. Cette vie en marge de la société, dans les milieux où la délinquance, le vol et la drogue sont choses courantes, est cependant incompatible avec la vie de famille. Les parents font d'innombrables tentatives pour assagir ces enfants récalcitrants, pour leur redonner l'envie de revenir à la maison et le goût de petites obligations quotidiennes. C'est inutile, la distance entre eux et leurs fils adoptifs devient de plus en plus évidente. Inutile de leur donner toujours de nouvelles occasions pour recommencer à vivre normalement, parce que leur sens de la normalité est déjà complètement différent. Ils préfèrent vivre dans la rue, dans des conditions hygiéniques précaires, pratiquement hors la loi, et n'hésitent pas de voler leurs parents quand l'occasion se présente. Profondément déçue, la mère finit par réaliser qu'une étape de sa vie est en train de s'achever. Elle doit accepter le fait que dans la vie de chaque homme, il y a des moments cruciaux et des hasards qui forment finalement sa vie et sa destinée.
Je dois dire que je préférerais ne pas écrire ce livre. Je voudrais mieux être contente de mes garçons, avoir le plaisir de voir qu'ils vivent une bonne vie, une vie responsable. Mais cela ne s'est pas fait. Et je dois dire que quand j'écrivais les diverses versions littéraires de mon roman, avec chaque version, une partie de mon terrible chagrin et ma sensation de vanité me quittaient. Mais ce n'est pas parce que je me serais dit « Voilà, maintenant tu es célèbre parce que tu as écrit ce livre ». Non, c'était vraiment une thérapie. Les psychologues et les psychiatres disent « Débarrassez-vous de vos problèmes en les décrivant ».
Teresa Boučková a donc vaincu ses problèmes en le décrivant, mais elle doit faire face aussi à des réactions de gens qui n'ont pas toujours de compréhension pour ses actes. Ceux qui la condamnent disent qu'elle n'aimait pas assez ses enfants adoptifs. La rupture avec Dominique et Marianne marquera aussi ses rapports avec son fils biologique et avec son mari.
Bien sûr, par moments, ces problèmes désagrégeaient notre mariage. Mais je dois dire que les liens entre les époux ayant décidé de faire un tel pas et d'admettre dans leur vie deux enfants venant d'ailleurs, les liens qui ne se désagrègent pas pendant cette période doivent être extrêmement forts. Il est vrai que nous, mon mari et moi, avons été terriblement fatigués et même complètement épuisés. Mais cela nous a aussi beaucoup attachés l'un à l'autre. Nous avons surmonté l'étape de fatigue matrimoniale et nous sommes parvenus à une période où nous nous aimons beaucoup. Nous avons subi ensemble une certaine épreuve et cela compte.
Le roman « L'année du coq » n'est cependant pas que la description d'une rupture. La palette de ces thèmes est beaucoup plus riche. À la crise familiale s'ajoute aussi la crise créatrice et l'auteur se rend compte que les sources de son inspiration sont taries. Elle ne cesse cependant de continuer à écrire, à chercher de nouveaux thèmes et de nouvelles activités artistiques. Elle réagit aussi très vivement à la situation politique, commente la vie de tous les jours, entretient plusieurs amitiés. Elle avoue être sensible au charme d'un homme qui n'est pas son mari. Elle décrit minutieusement aussi les crises de son mariage, qui sont souvent très orageuses. Ainsi, Teresa Boučková compose une mosaïque d'une vie, mais aussi celle d'une société et d'une époque. Elle jette également un regard critique et parfois sévère sur son entourage. Elle n'épargne personne, mais s'efforce toujours de rester sincère et de ne pas blesser inutilement.
No, tak když je sama píšu, tak asi mám potřebu je sdělit, ale...
Quand j'écris ces choses-là, j'ai sans doute le besoin de les exprimer, mais il faut toujours réfléchir sur le degré de l'ouverture que vous adoptez. Dans l'année du coq, je suis allée jusqu'à la limite de la franchise et parfois même au-delà de cette limite. Mais c'est justement le problème qu'on doit résoudre une fois pour toutes quand on veut écrire ce genre de littérature. Quand on n'a pas le courage de décrire ouvertement les choses qu'on vit, on ne peut pas le faire. Quand vous commencez à vous censurer vous-même, quand vous réduisez considérablement ce que vous voulez dire sur vous ou sur les autres, cela ne va plus. Vous devez vous investir entièrement.
Chcete sdělit, tak to se nedá. No. To musí člověk opravdu se vlastně vydat v šanc.
Ces rencontres littéraires étaient une rediffusion de l'année dernière préparée par Václav Richter. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre attention. À très bientôt sur nos ondes ou sur notre site www.radio.cz. Au revoir, Nasredano. Radio Praga continúa.